Bonjour tout le monde. Vous allez bien ce matin? J'espère que vous avez passé une belle semaine. Moi, j'ai passé deux belles dernières semaines en vacances avec la famille, quand des boulots. On était également sur la côte est américaine. Beaucoup, beaucoup d'heures de route, surtout pour le revenir à la douane. Ça n'a pas été facile. Il y avait beaucoup d'attentes. Alors ce matin, c'est vraiment avec joie. Vraiment avec joie que j'ai le privilège de continuer la série qu'on a commencée la semaine dernière et qu'on a entamée, qu'on a intitulée simplement « Je me souviens 500 ans d'un évangile réformé ». Dis Miguel, c'est quoi ce 500 ans? Je me souviens, OK, il y a 500 ans, il s'est passé quelque chose, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pour nous, c'est loin de notre quotidien, mais il y a 500 ans a débuté un cri incroyable pour défendre l'Évangile. A débuté ce qu'on appelle la réforme protestante. Et nous, en tant qu'Église de l'espoir, qu'est-ce qu'on a à souvenir de la réforme protestante qui a commencé en 1517, qu'on fête cette année le 500e anniversaire? Un demi-millénaire. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui étaient là. Mais tu sais, quand on se dit « je me souviens, Miguel, je n'étais pas là », donc de quoi je devrais me souvenir? Bien, il y avait des hommes qui ont écrit sur ce qui est arrivé à ce moment-là. Et ce qui est arrivé, c'est que c'est vraiment une révolution incroyable qui s'est passée dans la nature des gens. Et en tant qu'Église de l'espoir, c'est important de se souvenir des choses-là parce que c'est à ce moment-là, en 1517, que l'Église a commencé à revenir aux sources et aux racines du message de Dieu pour l'humanité. C'est à partir de ce moment-là que l'Évangile dans l'Église est revenu au cœur du message du salut de l'humanité. À partir de ce moment-là, il s'est passé quelque chose, notamment, ça partit évidemment en Europe et ça a été diffusé un peu partout sur la planète par après, mais il y a un message, on est revenu à la nature même du message de Dieu pour l'être humain, et ici, à l'Église de l'espoir, tout ce qu'on croit pour marcher et vivre près de Dieu revient à ce qui s'est passé à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'on a pris la peine au cours du mois d'août, de revenir sur ces éléments, ces fondements-là, pour se souvenir vraiment de comment est-ce que la Bible, comme on l'a vu la semaine dernière avec Sola Scriptura, nous révèle qui est Dieu, qui nous sommes en tant qu'être humain et comment on peut faire pour vivre près de lui et être accepté par lui. À partir de ce moment-là, il y a 500 ans, non seulement l'Évangile a été défendu bec et ongle contre les mensonges que beaucoup de gens croyaient, mais à ce moment-là, c'est également, il y a quelque chose d'autre qui s'est passé, c'est qu'on a voulu également extirper de l'Église tout ce qui ne venait pas de la Bible et que les gens souvent croyaient. Au début du 16e siècle, par exemple, la plupart des gens croyaient qu'on pouvait gagner son ciel de différentes façons. Que ce soit en achetant des reliques, des indulgences, en partant à la guerre sainte, que ce soit par le confessionnal ou tout simplement en faisant du bien, les gens pensaient qu'on pouvait gagner son ciel, qu'on pouvait gagner et acheter notre séjour auprès de Dieu. Et c'est à ce moment-là que celui qui vient de composer le chant qu'on vient de chanter a eu cette heureuse question. Martin Luther, un moine allemand, qui se posait beaucoup de questions par rapport, écoute, on voit des choses qui se passent là, dans la catholicité, avec le pape, avec tout le Moyen-Âge, puis je m'aperçois que je me pose vraiment des questions. Que dois-je faire exactement pour être sauvé, marcher et vivre près de Dieu? Luther s'est vraiment posé cette question-là et il l'a recherché avec beaucoup, beaucoup de ferveur. En étudiant l'Épître aux Romains, Luther en est venu à la conclusion suivante. Le salut n'est pas quelque chose qui s'obtient par un mérite quelconque. C'est par la foi seulement que l'âme humaine peut bénéficier de cette grâce que Dieu peut lui accorder. De là vient la fameuse expression latine « sola fide », seulement par la foi. La foi qui sauve, la foi qui a le privilège de réconcilier l'être humain avec Dieu, ou Dieu se réconcilie avec l'être humain par le moyen de la foi. Mais évidemment, la question que s'est posée Luther, c'est « OK, mais tout le monde dit avoir cette foi-là autour de moi. Pour toi, je m'aperçois qu'il y a des choses qui clochent. Il y a des choses qui ne marchent pas. » Une des choses que faisait Luther notamment, parce qu'il se sentait très petit devant Dieu, c'est qu'il passait souvent des nuits à se flageller physiquement pour être capable de se rapprocher de Dieu et lui démontrer qu'il était humble devant sa grandeur. Et à ce moment-là, il a découvert la foi. Ce n'est pas en me flagellant que je vais découvrir qui est Dieu et que je vais pouvoir m'approcher de lui, c'est par la foi seulement. Mais en quoi consiste exactement cette foi? Ce qu'on va faire ce matin pour répondre à cette question, quelle est la foi qui sauve? Cette foi unique que Dieu s'attend que nous déployons envers lui pour être réconciliés et vivre vraiment de manière fabuleuse le message de l'Évangile avec lui. Bien, ce matin, notre frère Stéphane va nous lire un texte qui nous parle de cette foi et on va l'examiner ensemble ce matin. Alors, je vous invite à tourner avec moi dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, et Stéphane va nous lire les versets 3 à 10. Alors, sans plus tarder, je lui laisse la parole.
Alors, comme Miguel l'a mentionné, la lecture de ce matin est dans Éphésiens au chapitre 2, les versets 3 à 21, à 3 à 10, pardon, et je vais lire dans la seconde 21. Donc, Éphésiens 2, chapitre 3 à 10, verset 3 à 10. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions.
Merci Stéphane. Ce texte, on l'a vu dernièrement dans l'étude qu'on a prise, dans la série qu'on a faite sur l'Épître aux Éphésiens. C'est un texte bien connu, je suis convaincu, par bien des gens avec nous ce matin. Un message qui résume le cœur du message de Dieu pour les êtres humains. Comment est-ce que quelqu'un peut passer d'un état de culpabilité et de perdition à un état de salut et de rédemption? Eh bien, ce que le verset 8 nous dit est très clair et ça peut être résumé de la manière suivante. C'est uniquement et seulement par la foi que nous pouvons recevoir le salut qui nous fait vivre près de Dieu. C'est uniquement et seulement par la foi que nous pouvons recevoir le salut qui nous fait vivre près de Dieu. Toute la vie chrétienne est fondée sur ce principe-là. Seule la foi peut changer la trajectoire naturelle de notre condamnation devant Dieu. Mais sur quoi repose cette foi? Comment est-ce que je peux faire la différence entre une foi qui sauve et une foi qui ne sauve pas? Une foi qui n'a pas le pouvoir de me réconcilier avec Dieu. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Il y a des gens qui croient profondément en Dieu sans que cette foi en soit vraiment une. Et il y a des gens qui croient en Dieu en ayant ce salut qui sauve. Mais de quoi est-il fait, ce salut qui sauve? De quoi est fait cette foi que Martin Luther a défendue avec tant de courage et d'audace pour une période où est-ce que sa vie a été en danger? Parce que sa vie a été en danger. Sa vie a été en danger lorsqu'il a été conduit vers, pas le bûcher, mais vers une espèce où il a dû, devant l'empereur Charles Quint, défendre sa foi. Et il était non seulement condamné à la prison à vie à cause de sa foi, il a dû défendre cette foi unique qui sauvait et qui était contraire à toutes les habitudes catholiques de l'époque. Et une des choses que nous dit le texte de Éphésiens au sujet de la vraie foi qui sauve, c'est ceci. La foi qui sauve est entièrement dirigée par Dieu. La foi qui sauve est entièrement dirigée par Dieu. C'est le premier principe de la fameuse expression « sola fide », c'est que la foi possède une source. Elle possède une origine, elle possède une provenance. Et c'est ce que nous dit Éphésiens 2, verset 8, qui nous dit « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Ce qu'on voit ici dans le verset 8, c'est qu'il y a deux possibilités en ce qui concerne l'origine ou la provenance de la foi. Ou bien la foi est une capacité personnelle que possède chaque personne, qui se doit d'être exercée, qui se doit d'être pratiquée pour être sauvée. Je dois croire en tant qu'être humain, c'est une capacité que je possède, et je dois croire en Dieu et au sacrifice de Jésus sur la croix pour être sauvé. Ça vient de moi. Jésus, lui, est mort sur la croix. Moi, ma part pour mon salut, là, pour être sauvé, ma contribution, mais c'est que je dois croire. Ça, c'est une des possibilités. La foi est quelque chose qui vient de moi. L'autre possibilité, c'est que la foi est un don de Dieu dont il est lui-même l'auteur. Là, la foi que j'exerce, c'est pas tant une capacité que je possède, mais une grâce que Dieu me donne de pouvoir croire dans quelque chose qu'il a fait pour moi, c'est-à-dire le sacrifice de Christ à la croix pour le pardon de mes péchés. Certains gens vont dire que la foi ne peut pas être un don de Dieu. Tout simplement parce que l'expression « cela » dans le verset, dans le grec, c'est un terme qui est neutre. Alors que le mot « foi », lui, c'est un terme qui est conjugué au féminin. Donc, si je comprends bien mon français, là, ben, si la foi, c'est ça qui est le don de Dieu dans le verset, ben, le terme « cela » devrait être conjugué également au féminin. Donc, les gens disent, à cause de cette raison-là, ben, la foi, ça ne peut pas être vraiment le seul nom de Dieu. Ce qui est le don de Dieu, c'est plutôt la grâce. Par contre, ce qu'il faut se dire, c'est que l'expression, quand on prend le mot « cela », ça peut aussi bien signifier le résultat, qui est que je suis sauvé par grâce, que le moyen du résultat, c'est-à-dire que je suis sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Le résultat et le moyen peuvent être liés au terme « cela ». Donc, à ce moment-là, la foi peut être également perçue comme un don de Dieu. Les deux termes doivent être pris peut être pris à ce moment-là, l'un qui ne doit pas être pris sans l'autre. Il est aussi possible que le mot « foi » dans le texte ici, ça fasse référence au fait que c'est à l'exercice de ma foi, à la pratique de ma foi. Et ça, ce terme-là, il, quand on le conjugue, il est neutre. Donc, à ce moment-là, l'erreur grammaticale que certains suggèrent, qui pourrait avoir son accord, le fait que la foi est un don de Dieu, bien là, il n'y en a plus. Parce que les deux termes sont au neutre. Alors, pour toutes les raisons ici qu'on vient de voir, la foi qui sauve se doit absolument d'être considérée comme un don de Dieu. La foi n'est pas un acte ou une décision autonome de ma part. Ce n'est pas une contribution personnelle à mon salut. La job de Dieu, c'est de mourir sur la croix. Ma job à moi, dans mon salut, c'est de croire. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça, ce n'est pas la foi qui sauve. La foi qui sauve, c'est que Christ est mort à la croix pour porter le prix de mes péchés. Et en plus, il m'accorde une grâce incroyable, c'est que je puisse répondre moi-même à ce que lui-même a déjà fourni pour moi à la croix. C'est en ce sens-là que la foi est perçue non pas comme quelque chose que je fais pour être sauvé, mais plutôt une réponse de mon être à ce que Dieu a déjà donné pour moi, à ce que Dieu a déjà fait de manière incroyable pour chacun d'entre nous, pour l'humanité, c'est-à-dire qu'il vient donner sa vie parfaite pour racheter l'être coupable que je suis. C'est un geste de confiance envers ce que Dieu contrôle parfaitement. La foi n'est pas quelque chose d'une certaine manière, dont je suis responsable. Dieu porte ma foi. Dieu suscite ma foi. Dieu crée ma foi. Et si je lui demande, il va même m'en offrir plus. Est-ce que les disciples n'avaient pas dit à Jésus, par exemple, « Seigneur, augmente ma foi, augmente notre foi, viens au secours de notre incrédulité. » Pourquoi est-ce que les disciples ont demandé ça à Jésus? Augmente notre foi. Bien, ils savaient que Jésus avait la capacité de pouvoir le faire, qu'il avait la grandeur de pouvoir leur donner ce qu'eux-mêmes, ils étaient dans une profonde incrédulité, il y avait le pouvoir de leur donner quelque chose qui pouvait les sauver. Qu'est-ce que ça peut changer, ça, dans ma vie? Le fait que la foi est tout d'abord contrôlée par Dieu, puis que c'est un don qui vient de lui, eh bien, ce que ça change, c'est que la foi, à ce moment-là, ça ne devient pas un jeu de performance. Ou c'est à moi qui a prouvé que je crois assez fort en Dieu pour qu'il fasse quelque chose pour moi. Si la foi est quelque chose qui vient de moi, bien, c'est ma job à ce moment-là de devoir croire que Dieu est assez puissant pour intervenir pour moi. Alors, sur qui repose à ce moment-là le salut? Bien, il repose sur ma force de croire. Mais ma foi, elle a peu vacillé. Elle peut être troublée parfois. Et ce qui est incroyable dans la fameuse expression « sola fide », c'est que ma foi ne repose pas sur ma propre force de croire. Elle repose sur le fait que Dieu me donne et m'accorde quelque chose de précieux. Il m'accorde un don. La foi est un don de Dieu et ma job en tant qu'être humain, c'est de simplement répondre à la valeur de ce cadeau-là que Dieu me fait de pouvoir croire simplement en lui. Est-ce que ça, d'une certaine manière, ça l'empêche ma liberté, ma libre expression de ma foi? Bien sûr, il y a des êtres humains qui peuvent dire non à un cadeau et il y a des êtres humains qui peuvent dire oui à ce cadeau-là. Ma job maintenant, c'est maintenant, qu'est-ce que je veux faire avec ce cadeau-là que Dieu m'offre? De pouvoir croire que son sacrifice m'a réconcilié avec lui. C'est tellement réconfortant de voir que ma foi repose sur la puissance de Dieu premièrement, et non pas dans ma capacité de croire. Je donne un exemple. Il y a quelques semaines de cela, j'étais avec mon groupe de quartier, puis on s'est dit, hey, il fait beau, on va aller faire notre rencontre au parc près de la maison. On va faire notre rencontre dehors, on discute ensemble, puis on prend notre temps ensemble, une belle rencontre avec les enfants qui jouaient pas loin. C'était super, on a eu du bon temps ensemble. Mais en revenant à la maison, je m'aperçois qu'il me manque quelque chose. Il me manque une clé. Tu sais, les fameuses clés d'auto-électronique, là, qui ont des puces dedans, puis que ça coûte une fortune faire remplacer, là, je ne l'ai plus. Ma seule clé. Alors, qu'est-ce que je fais d'après vous? Bien, je commence à chercher, puis je ne la trouve pas. Là, le temps passait, puis je cherchais. Écoute, je retourne au parc, je reviens à la maison, je fais tous les endroits par où j'ai passé. Je ne trouve pas la clé. Et là, à ce moment-là, ma tête a commencé à se remplir de scénarios catastrophes. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne suis même pas capable de partir l'auto. Je ne suis même pas capable de l'amener chez le concessionnaire pour faire une autre clé. Sincèrement, là, j'étais pas en mode panique, mais il y a plein de scénarios qui me rentraient dans la tête. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai simplement fait quelque chose que généralement, je ne fais pas souvent. Parce que quand j'ai un problème, là, si je perds quelque chose, bien, je cherche. Si j'ai perdu quelque chose, ma seule manière de trouver la chose que je cherche, c'est de continuer à la chercher. J'ai dit, il y a Miguel, regarde là, fais juste rentrer dans ta chambre, mets-toi à genoux, puis j'ai prié de cette manière-là. Seigneur, je sais que tu m'aimes et que tu es bon et généreux avec moi, sans que je le mérite. Tu connais la situation, regarde, j'ai la place entre tes mains. J'ai confiance que peu importe comment la situation se termine, ma foi en toi ne sera jamais aussi grande que tu le mérites. Tu mérites tellement que je crois plus dans toi, mais je t'avoue, regarde, là, je viens devant toi parce que je suis littéralement à terre, je n'ai aucune alternative, je ne sais pas quoi faire d'autre. Augmente ma foi en ta bonté. Je veux croire que ce n'est pas moi qui vais trouver cette clé-là, c'est toi qui vas la faire trouver. Je ne sais pas comment tu vas le faire, mais je sais que tu vas le faire. J'en ai vraiment besoin. Impressionne-moi. Impressionne-moi. Montre-moi comment tu es grand pour que ma foi à toi puisse grandir et que j'apprécie le don que tu m'as fait. Je me suis relevé, puis mon cœur était vraiment en paix. Il n'y avait plus ces scénarios catastrophes. Et deux minutes après, vous savez ce qui est arrivé? Ma femme me téléphonait. Elle avait été au parc. Puis évidemment, elle avait trouvé les clés. Bon, il y en a peut-être qui diraient, d'après vous, Miguel, tu avais juste acheté un meilleur coup d'œil, tu avais juste à être moins distrait. Ça n'a rien à voir avec la foi, ce que tu as fait. C'est juste de quelqu'un de moins distrait puis qui avait des meilleurs regards que toi, qui était plus concentré, qui a finalement trouvé ce que toi, tu cherchais. Puis, regarde, ça n'a rien à voir avec le fait que c'est ta foi en Dieu qui t'a permis de retrouver ces clés-là. Vous vous trompez. J'ai tellement été impressionné par Dieu dans la situation. Il m'a compris de mieux expérimenter que la foi, ce n'est pas un concours d'habileté spirituelle où je dois croire mieux que les autres. La foi, c'est un privilège et une faveur qui m'est accordée d'être impressionné par la grandeur de Dieu. Et c'est ce que Luther a compris dans l'Épître aux Romains. Ma job à moi, c'est d'être impressionné par la grandeur de Dieu. La foi qui sauve est une foi qui provient et qui est dirigée par Dieu. Ce n'est pas juste ma job à moi, de mon libre arbitre, de devoir croire. C'est Dieu lui-même qui me donne le privilège et cette grâce-là de pouvoir croire en lui. Et le deuxième élément qu'on voit dans le texte, et qui est lié évidemment à celui-ci, qui nous décrit un peu ce qu'est la foi également qui sauve, c'est le fait que la foi qui sauve possède un contenu dont elle ne peut pas se passer. Vous savez, les amis, croire en Dieu, est-ce que ça l'a déjà sauvé quelqu'un? Croire en Dieu, vous savez, ça n'a jamais sauvé personne. Avoir une conviction sur l'existence de Dieu n'a rien à voir avec la foi qui sauve. Si je vous demandais aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà mangé une tomate? Qu'est-ce que vous me répondriez? Imaginez que vous posez ça à quelqu'un comme question. Est-ce que tu as déjà mangé une tomate? Et que la personne vous dise, bien oui, bien sûr que j'ai déjà mangé une tomate. Et alors là, vous le posez, OK, mais explique-moi, qu'est-ce que ça goûte? À quoi ça ressemble une tomate? Et que là, que la personne soit incapable de vous répondre. Il dit, c'est comme, elle est muette comme une carpe, elle est incapable de vous dire qu'est-ce que ça goûte et à quoi ça ressemble. Est-ce que vous la croiriez? Est-ce que vous croiriez vraiment qu'elle a déjà goûté une tomate si elle était capable de vous décrire son goût ou à quoi ça ressemble? Ben non, ce ne serait pas plausible pour vous que la personne dise, oui, j'ai déjà mangé une tomate, alors qu'elle est incapable de vous dire à quoi ça ressemble et qu'est-ce que ça goûte. Tout ce qui existe a un contenu et un objet. Et la foi dont on parle, la vraie foi qui sauve, c'est la même chose. Regardez ce que nous dit Éphésiens chapitre 2, au verset 4. Regardez entre les versets 4 et 7. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Ce qu'on voit ici, c'est que notre salut et la vie que Dieu dépose en nous, fait naître en nous par la foi, eh bien, elle est intimement associée à l'œuvre et à une personne, celle de Jésus-Christ. La foi qui sauve, pour Luther,
c'était clairement le fait qu'il n'y a que Jésus-Christ qui peut réellement me réconcilier avec Dieu. L'écrivain Tim Keller, commentateur évangélique, a déjà dit ceci. La grande différence entre la foi chrétienne et les autres visions du monde ou les autres religions, c'est que dans le christianisme, c'est la performance parfaite de quelqu'un d'autre qui est appliquée à notre vie. Dans toutes les autres visions du monde, que peu importe que vous parliez d'humanisme, de bouddhisme, d'islam, ce qui compte, c'est qu'est-ce que je fais moi et comment je performe pour m'approcher de Dieu. La grande différence avec le christianisme et ce qui est né il y a 500 ans, c'est le fait que ce n'est plus moi qui performe, c'est Christ qui performe en ma place et lui, sa performance est beaucoup plus sur la coche que ce que moi je peux faire. La foi qui sauve, mes amis, c'est une foi qui s'émerveille devant ce Dieu qui a envoyé son Fils accomplir un travail fabuleux à la croix pour me réconcilier avec lui. Voilà la foi qui sauve. Une foi qui s'émerveille de ce travail que Jésus a fait à la croix. Nous ne pouvons rien y ajouter de plus. À la croix, Christ a payé nos fautes. Il a été jugé pour nous et par sa résurrection, il a vaincu ce qui faisait de nous des êtres condamnés. C'est par la foi seule en cela, en l'œuvre de Christ sur la croix, que la justice de Dieu nous est alors imputée. C'est-à-dire que la justice nous est transmise par la foi. Je me confie dans le fait que ce n'est pas moi d'être juste devant Dieu, c'est Dieu qui me justifie. Regardez ce que dit Paul. Regardez ce que dit Paul dans 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 1, à partir du verset 12. Vous pouvez tourner ceux qui ont leur Bible, mais je vais vous la lire également. 2 Timothée, chapitre 1, verset 12. Voilà ce que Paul dit à un de ses disciples, Timothée. « Voilà pourquoi j'endure ces souffrances. Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder le dépôt qu'il m'a confié jusqu'à ce jour-là. Prends pour modèle les saines paroles que tu as entendues de moi dans la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, garde le bon dépôt qui t'a été confié. » D'une certaine manière, ce que Paul fait ici, c'est qu'il encourage Timothée à se souvenir constamment de la grandeur du Dieu dans lequel il a cru. Celui qui a envoyé Christ, son Fils, accomplir quelque chose de formidable pour l'humanité. Et que pour marcher dans la foi, ce n'est pas simplement le fait que je dois croire plus. C'est le fait simplement d'être émerveillé davantage de ce Dieu-là qui a le pouvoir de susciter en moi encore une plus grande foi pour accomplir le travail qu'il me demande de faire. Ce que Paul dit à Timothée, c'est que « Laisse-toi pas distraire par toutes sortes de choses. » Bien des gens autour de toi disent avoir la foi en Dieu parce qu'ils trouvent ça utile de croire en Dieu. Est-ce que c'est utile de croire en Dieu? Est-ce que c'est utile de croire dans une force au-dessus de nous quand on n'a plus aucune alternative et qu'on ne sait pas où tourner la tête devant un problème? Mais oui, c'est utile. C'est utile de voir que quand je ne peux rien faire, il y a quelqu'un qui est capable de faire quelque chose. Mais ce que Paul dit, c'est que, écoute, Timothée, tombe pas dans le piège de ces gens-là. Ne crois pas en Dieu parce que c'est utile de croire en Dieu. Crois en lui pour une autre raison. Crois en lui parce qu'il est tout simplement merveilleux. Est-ce que c'est votre cas ce matin? Est-ce que vous croyez en Dieu parce qu'il est utile pour votre vie? Parce qu'il vous donne des bons principes de vie de famille, qu'il vous donne des bons principes d'éthique de travail, qu'il vous donne des bons principes pour être plus patient, pour avoir moins d'amertume, vaincre la vengeance, puis mener une bonne vie. Est-ce que vraiment votre foi est fondée sur le fait que Dieu, dans ma vie, il améliore ma vie, améliore ma qualité de vie? C'est quelque chose d'utile de croire en Dieu. Bien sûr que c'est utile, mais est-ce que votre foi se limite à un Dieu qui est utile pour votre vie, ou est-ce que votre foi est constamment illuminée par le fait qu'il est tout simplement merveilleux et qu'il peut vous amener beaucoup plus loin que l'endroit où vous êtes en ce moment, qu'il peut m'amener à des endroits que j'aurais peut-être même pas imaginés. Qu'est-ce que ça prendrait, d'après vous, pour changer le monde dans lequel on vit? Bien, si vous posez la question à votre voisin ou à quelqu'un au travail, peut-être que cette personne-là va dire, bien, écoute, Miguel, je crois que pour changer le monde dans lequel on vit, là, ça prend plus de générosité, ça prend plus de compassion, ça prend plus d'entraide. Puis, finalement, au bout du compte, là, celui dans lequel je devrais croire pour que le monde change, bien, c'est dans moi-même. Si je crois dans moi-même puis que je suis vraiment intègre avec ce qui je suis puis dans les valeurs dans lesquelles je crois, là, je pense que le monde va changer. Je pense que le monde va aller pour le mieux. Regardez ce que dit Paul. Regardez ce que dit Paul, Romains chapitre 10, verset 17. Paul a une solution beaucoup plus simple pour nous que de croire en nous-mêmes. Il nous dit, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Une parole qui, il y a 2000 ans de cela, a été faite chair et a été envoyée vers nous par la personne de Jésus-Christ. » La question qu'on pourrait se poser ce matin, c'est, personnellement dans nos vies, c'est quoi les choses qu'on entend? C'est quoi les choses qu'on entend et qui viennent donner de la valeur dans ce de quoi on croit? Est-ce que vraiment la parole est quelque chose dans lequel je crois sincèrement et profondément, que je me nourris constamment pour pouvoir nourrir cette foi-là qui me fait marcher et vivre près de Dieu? Cette foi qui sauve. Sincèrement, je n'ai pas à vous faire la leçon là-dessus. Je suis le premier à répondre coupable dans le fait que souvent, dans ma vie, je ne crois pas les bonnes choses parce qu'elles ne sont pas encore assez nourries de la parole et j'ai besoin de me ressourcer constamment. La foi vient de ce que j'entends. Qu'est-ce que j'entends? À quoi j'accorde de l'importance dans la vie pour prendre de bonnes décisions? Des décisions qui me rapprochent de Dieu. Des décisions qui me rapprochent de lui, qui me fait vivre l'esprit qu'il m'a donné. Vous savez, la foi qui sauve possède non seulement une origine, un contenu qu'on ne peut pas se passer, c'est-à-dire la personne de Jésus, mais pour des gens, ça peut être très abstrait, ça peut être très théorique, ça. Écoute, Miguel, tu me parles de foi qui a une origine, une provenance, tu me parles de Jésus-Christ, que cette foi-là par laquelle Dieu peut se réconcilier avec moi, ça ne peut pas passer autrement que par lui. Parfait, je comprends tout ça, mais ça demeure abstrait. Ça demeure des concepts avec lesquels on peut jongler. Tu n'as pas quelque chose d'un peu plus concret. Et c'est à ce moment-là que la lettre aux Éphésiens, au chapitre 2, nous dit que la foi qui sauve, ce n'est pas juste une source, ce n'est pas juste Dieu qui dirige ma foi, ce n'est pas juste Dieu qui m'indique que la foi a un contenu dont je ne peux pas me passer, mais ça m'indique également que la foi qui sauve est une démonstration visible de la réalité de Dieu dans ma vie. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que la foi qui sauve, celle qui me réconcilie avec Dieu, ne peut pas faire autrement que de porter du fruit. La foi, ce n'est pas quelque chose de stérile, ce n'est pas quelque chose d'improductif. C'est quelque chose qui produit une action, qui produit des œuvres, qui produit le fait que, Seigneur, à la croix, il est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Tu as porté le poids de l'humanité qui nous rend coupables, puis en échange, tu nous donnes ton pardon. Comment est-ce que je pourrais maintenant être indifférent à un tel acte d'amour et ne pas répondre par une foi qui porte du fruit? Regardez ce que nous dit le chapitre 2 encore d'Éphésiens, au verset 10. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ici, ce qui est très clair, c'est que la foi qui sauve change qui je suis. Ça change qui on est. Ça nous procure une identité spirituelle qui nous pousse à l'action. Ce n'est pas les œuvres qui me sauvent, ce sont elles qui manifestent ou qui démontrent que je suis déjà sauvé. C'est la manière d'être pour moi simplement le miroir que Dieu a fait de sa vie en m'accordant son esprit lorsqu'un jour je lui ai accordé cette porte d'entrée dans ma vie. Dans l'Apocalypse, on dit que Jésus, notre porte est comparée à une vie et que Jésus frappe à la porte. Qu'est-ce que vous feriez, vous, si quelqu'un frappait à votre porte? Est-ce que vous ouvrez ou si vous fermez? Vous laissez fermer? Bien, il y a des gens qui vont ouvrir. Il y a des gens qui vont laisser fermer pour différentes raisons. Ah, la personne, je ne la connais pas, il peut arriver n'importe quoi, j'ai peur, je ne connais pas la personne. Okay. Mais à la base, Jésus cogne. Et ma seule manière à moi de pouvoir entrer en relation avec lui, c'est d'ouvrir cette porte-là, c'est de répondre à l'invitation qu'il m'offre. Donc, la foi, ce n'est pas moi qui cogne à la porte de Christ pour dire « Hey Seigneur, je veux rentrer dans ta vie. » Non, non, c'est Christ qui vient à la porte de ma vie pour cogner et c'est moi qui ai à répondre de cela. C'est ça la vraie foi qui sauve, ouvrir à l'invitation irrésistible que Dieu me donne. Comment votre foi porte du fruit? Comment votre foi est active dans votre vie? Quelle est l'œuvre? La dernière œuvre que Dieu a développée dans votre vie et qu'il a préparée d'avance pour que vous la pratiquiez. C'est des choses qui vous viennent en tête? Récemment, il y a à peu près un peu plus d'un mois de ça, 1er juillet, vous savez, à l'église, on avait organisé une journée de déménagement pour les gens dans le quartier qui ne font pas nécessairement partie de l'église, mais on voulait leur venir en aide. Il y a des familles dans le quartier qui déménagent, puis on sait que déménager, c'est un lourd fardeau pour plusieurs personnes. Donc, on voulait offrir simplement, généreusement, de l'aide à ces familles-là qui sont prêtes à des déménagements. Et quand je suis arrivé le samedi matin, j'ai vu quelque chose d'un peu, qui m'a un peu piqué ma curiosité, puis sincèrement, je me demandais qu'est-ce que cette personne-là faisait là avec nous, parce que je savais que la personne avait des problèmes de santé. Donc, je me dis, bon, la personne qui a des problèmes de santé, disons que c'est la dernière place que je la verrais, c'est une condition de déménagement où est-ce qu'elle doit apporter des meubles, exercer un certain effort physique, dépenser de l'énergie. Ce n'était pas une place où est-ce que je la voyais. Donc, moi, j'étais surpris de la voir là. Pourtant, elle était là, prête à aider. Et vous savez quoi? Son aide a tellement été précieuse. Sa présence s'est avérée très importante. Elle a fait des choses que, par sa dynamique, par sa proactivité, par le fait simplement d'être là pour des gens, elle était pour moi un modèle. La foi en action de cette personne-là est venue au secours de mon incrédulité. Moi, je ne croyais pas que cette personne-là pouvait être utile. Elle m'a prouvé, Miguel, tu as vraiment tort, puis Dieu est capable de faire encore, même si je n'ai pas toutes mes forces, est encore capable que je peux vous être utile parce que ma foi est capable de produire des actions. J'ai été impressionné. J'ai été impressionné parce que cette personne-là connaissait ses limites, elle les a respectées, mais elle était là, puis elle nous a donné vraiment un fichu bon coup de main. Sa foi au cours de ce déménagement a été pour moi l'exemple d'une vie qui était prête à compter sur Dieu pour agir et vivre près de lui pour quelqu'un d'autre. Moi, j'y croyais pas. Je n'avais pas cette foi-là que cette personne-là pouvait vraiment être utile au moment où est-ce que je le considérais, mais elle m'a prouvé le contraire. Elle m'a prouvé le contraire. C'est où la dimension dans nos vies où est-ce que Dieu nous appelle à un geste de puissance envers lui? Croire dans la puissance de Dieu pour que, Seigneur, j'ai foi que tu peux faire une action généreuse par moi, même si mes bras sont fatigués, même si mes pieds sont fatigués, même si j'ai de la misère à tenir debout. Seigneur, je sais que ma foi en toi est tellement plus grande que mes limites humaines. Vous savez ce qu'on a sincèrement besoin? Vous savez ce qu'on a sincèrement besoin de produire comme action dans notre vie pour plaire à Dieu? Parce qu'on peut faire quelque chose pour plaire à Dieu en termes d'action. Puis regardez ce que nous dit l'Évangile de Jean, chapitre 6 à ce sujet. L'Évangile de Jean, chapitre 6, nous dit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est ça l'action que Dieu s'attend de nous. Que nous croyons fermement en celui qui l'a envoyé pour tout accomplir. Sola fide. Croire seulement. Ce verset-là était important pour Martin Luther. Ce verset-là est encore important pour nous aujourd'hui. Je vais inviter tranquillement le groupe de louanges à bien vouloir s'avancer. Vous savez, mes amis, il n'y a rien de plus important et de plus noble que de croire dans la puissance de Jésus-Christ pour nos vies. Les êtres humains ne sont pas sauvés en faisant plus de bien autour d'eux, à moins que ce qu'ils font soit centré, motivé et inspiré par la personne fabuleuse de Jésus-Christ qui, sur la croix, nous dit « Voici ce que j'ai fait pour toi. Je suis ressuscité pour te donner la victoire sur le péché. Est-ce que tu y crois? » Et crois pas que c'est juste à toi de croire dans ce que je t'offre. Moi-même, j'ai suscité ce pouvoir-là en toi de pouvoir croire. C'est moi qui dirige cette foi-là par laquelle tu peux répondre à l'invitation que je te fais de croire. J'aimerais simplement qu'on puisse terminer en simplement prenant le temps de prière. Simplement prier ensemble pour remercier le travail de foi qu'il a fait dans nos vies. Le travail qu'il fait encore dans nos vies et également celui qu'il va faire dans les années, les mois, les semaines à venir. Je vais vous inviter simplement à courber vos têtes et à prier avec moi. Seigneur éternel, c'est tellement savoureux de pouvoir goûter qui tu es. Nous voulons, Seigneur, déposer auprès de toi notre foi. Une foi, Seigneur, que tu peux faire grandir. Apprends-nous. Apprends-nous, Seigneur, à nous tourner vers toi constamment, admettre nos fautes et simplement se soucier du fait qu'en toi, il n'y a aucun souci à se faire. Lorsque je crois, Seigneur, que tu as payé le prix nécessaire pour me réconcilier avec toi et qu'il n'y a rien que je peux faire de plus que toi-même tu as déjà fait. Apprends-moi. Apprends-nous, Seigneur, à voir la foi non seulement comme le socle solide qui nous permet d'être réconciliés avec toi, ce qui met tes vertus en nous, ce qui nous fait vivre près de toi, mais à être également audacieux dans notre foi. Ne pas se contenter de quelque chose simplement qui nous réconcilie avec toi, mais de voir cette foi qui nous réconcilie avec toi comme un point de départ qui nous propulse plus loin. Un tremplin, Seigneur, que notre monde peut mieux admirer qui tu es à travers nos actions, nos pensées et nos paroles. Merci, Seigneur, pour ce que tu as accompli par la foi ici à l'Église de l'Espoir. Merci pour ce que tu accomplis encore et merci pour ce que tu vas accomplir dans l'avenir. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, vers qui nous voulons nous prosterner.